Yuri, tu me reçois? Ouais, un peu fort, mais. Commencez bientôt. Laissez quelques instants que les gens s'installent. Bonjour, ça va bien?
Merci
d'être là. Merci. Merci d'être là aussi parce que des fois, parler tout seul, c'est moins intéressant. Ça va bien, vous? On prie pour vous. Je la vois, c'est bon. Yuri? On va commencer. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont fait le chemin la semaine passée pour être ici à 9 heures, qui ont bravé la neige, la tempête, c'est dommage, on n'était pas là, il n'y avait pas de cours. On était dans une retraite, les anciens. Alors, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de cours le dimanche passé. Mais avant de commencer, je voulais juste faire un mot de prière, puis après ça, on va entamer pour le cours de ce matin. Père éternel, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Et Père, je te prie pour le temps qu'on va passer ce matin, pour l'enseignement que je vais donner. Je te prie d'être avec moi, avec ma bouche, avec mes pensées, et que cette matinée puisse t'honorer et te glorifier. C'est en nom Seigneur Jésus que je te prie. Amen. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ou si vous ne vous souvenez pas, il y a deux semaines, c'était Michel qui avait fait le cours. Puis, son cours, c'était « Quand le travail révèle nos idoles ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais prendre quelques petits instants simplement pour faire un petit rappel. Dans le fond, il y avait... Qu'est-ce qu'un idole? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Michel avait partagé. Un idole, c'est une bonne chose, comme le succès, la sécurité, l'argent ou la reconnaissance, que l'on transforme en chose ultime et à laquelle on demande que seul Dieu peut donner. Il y avait également deux grandes formes d'idoles au travail qui avaient partagé. L'idole du succès, dans le fond, qui est le statut, l'estime de soi, besoin d'être reconnu ou d'être irréplaçable. Et l'idole de la sécurité ou du contrôle, besoin de maîtriser, peur de perdre, difficulté à lâcher prise. Trois tests qu'ils nous avaient laissés, le test de la peur, Qu'est-ce qui me ferait paniquer si je perdais mon travail demain? Le test du repos. Est-ce que je suis capable de m'arrêter sans culpabilité? Je ne sais pas pour vous, mais je ne passe pas toujours ce test-là. Et le test de la réaction. Comment je réagis quand quelque chose échappe à mon contrôle? Ceux qui sont vraiment toujours les mains sur le volant, comme on dit, comment vous réagissez? Puis, Évangile est une libération réelle qu'il nous avait partagée. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle identité, on a une nouvelle motivation et une nouvelle éthique. Je vais passer par la suite, il y avait un autre point, mais à la fin, vous avez laissé le défi de la semaine. Je ne sais pas si vous l'avez appliqué. Dans le fond, vous avez eu 2 semaines pour l'appliquer, ce défi-là. Le défi, c'était de la non-indispensabilité. Choisir un moment où l'on s'abstient volontairement de travailler pour remettre notre confiance à Dieu. Je ne sais pas si vous étiez en mesure de l'appliquer, mais si vous ne l'avez pas fait, vous avez tout le reste de votre vie pour le mettre en application. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 9, qui est dans le fond pour une nouvelle section du livre, « Vision du monde et travail ». Alors, je vais commencer par une lecture d'un verset, 1 Corinthiens 10, 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Commencez par une question. Selon vous, qu'est-ce qui donne réellement de la valeur à un travail? Qu'est-ce qui donne la valeur à un travail? Qu'est-ce qui donne vraiment de la valeur à vos yeux à un travail? Pas de valeur? Pour réchauffer, c'est peut-être une grosse question pour partir, là, à 9h09. Pardon? Oui. Oui. Normalement, à part, dans le fond, ça peut être du bénévolat, mais oui, le travail, on cherche aussi une compensation, oui, monétaire. Okay. Quelque chose d'autre? Oui. Faire la différence. Oui. Oui. Exactement. Mais dans le contexte du travail également. Oui, Denis. Oui, sentiment d'accomplissement. Dans le fond, jusqu'à maintenant, j'avais écrit quelques-uns, on les a à peu près dit. Le salaire, c'est le premier. L'utilité. Le sentiment d'accomplissement, la reconnaissance, faire la différence. Il y en a qui ont du plaisir. Je pense que c'est Yannick, au premier cours, qui dit il y a du plaisir. Bien, tant mieux. La sécurité, le fait de servir Dieu. Alors, vos réponses révèlent déjà que nous avons tous une vision du monde différente, une façon de définir ce qui a de la valeur. C'est exactement ce que ce chapitre est en train de nous explorer, on va explorer ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir que personne ne travaille de manière neutre. Nous allons, que nous soyons conscients ou non, nous travaillons tous selon une vision du monde, un grand récit qui dit ce qui a une vie réussie, ce qui donne de la valeur au travail, d'où viennent nos frustrations et où nous plaçons nos espoirs. Ce chapitre nous montre que les métiers, les cultures et les sociétés portent chacun leur propre récit. Certains valorisent la performance, d'autres l'argent, d'autres l'autonomie ou la réputation. Ces visions façonnent nos motivations, nos peurs et même nos idoles au travail. L'Évangile, lui, propose un récit totalement différent. Vous avez peut-être déjà entendu cette façon de voir l'Évangile qui est « Le monde et le travail ont été créés bons », alors la création. Par la suite, on a été brisés par le péché. Bien souvent, on va associer ce moment-là à la chute. Ils sont en cours de rédemption par Jésus, alors le volet de la rédemption et la restauration, qu'on va être un jour pleinement renouvelé en lui. Comprendre ce récit change tout, change notre identité, nos motivations, nos décisions et même nos limites, de manière à que nous percevons la valeur de notre travail, de notre métier. Alors, on va ensemble explorer l'Évangile qui transforme notre manière de voir le monde et comment ça change notre façon de travailler, et ça, quel que soit notre domaine. Dans quelle histoire, puis la question que je veux, avec laquelle aussi je veux commencer cette section-là, c'est dans quelle histoire travaillez-vous? Est-ce que vous travaillez dans l'histoire, est-ce que c'est la vôtre ou celle de Dieu? C'est quelle histoire dans laquelle vous composez que vous travaillez? Nous donnons un sens à la vie par des histoires. Alors, nous faisons un sens de notre existence principalement au moyen d'histoires. Une histoire décrit un problème, une tension, et qui doit être par la suite résolue. C'est un peu ça, comme on dit en anglais, le plot, une histoire, a ces trois sections-là. Notre lieu de travail devient donc un des principaux endroits où notre histoire personnelle et sociale se réalise dans nos pensées, nos gestes et nos relations. Dans le chapitre montre que chacun travaille selon une vision du monde souvent inconsciente qui façonne ses motivations et ses idoles. Qu'est-ce qu'une histoire? Alors, je l'ai expliqué ici rapidement. Vivons une histoire, ça commence par quelque chose qui vient perturber la vie telle qu'elle se déroulait. Ensuite, les choses se compliquent et ensuite, l'équilibre est rétabli. Alors, un problème, une tension, un ennemi, une crise, et par la suite, on vient un retour à la normale. Ça, c'est un peu la définition, c'est quoi une histoire. Et l'expression « vision du monde » désigne la perspective générale à travers laquelle nous interprétons la réalité. Dans le livre de Keller, il nous dit « un cadre de référence est la perspective globale à partir de laquelle nous interprétons toute la réalité ». Puis je pense que oui, j'ai aussi une autre citation du livre, c'est « une vision du monde n'est pas seulement un ensemble de concepts philosophiques, il s'agit surtout de ce qu'on appelle un grand récit, c'est-à-dire une histoire fondamentale qui A, explique à quoi devrait ressembler la vie des hommes sur la Terre, raconte ce qui est venu perturber cette vie et C, montre ce qui est fait pour restaurer l'équilibre perdu. » Une histoire décrit essentiellement un problème, une tension qui doit être résolue. Maintenant, comment l'Évangile se compare-t-il à ces visions du monde? Toutes les visions du monde répondent à trois questions existentielles ou essentielles. Comment les choses sont-elles censées d'être? Alors, le plan initial. Quel est le principal problème avec les choses telles qu'elles le sont? Et quelle est la solution et comment peut-on mettre tout ça en œuvre? La solution. L'histoire de l'Évangile met d'abord en lumière la relation brisée avec Dieu et que Dieu a fait pour la restaurer. On va passer sur certaines visions du monde, puis ce n'est pas un cours de philo ou d'histoire qu'on va faire ici, loin de là, mais chaque vision du monde est basée sur une compréhension différente de ce qu'est un être humain. Elle identifie d'autres problèmes fondamentaux. Alors, on peut commencer par Platon, le grand philosophe grec. Le problème, c'est que l'esprit est prisonnier du corps et également l'ignorance. La solution, selon Platon, c'est l'éducation. Fait que, si on s'éduque, on n'a plus ce problème-là. Marx, pour ceux qui ont fait la philo ou la politique, le problème, c'est que les classes ouvrières sont oppressées par les classes dirigeantes. Alors, les moyens de production, ceux qui ont fait l'économie et tout ça, toute une philosophie. Puis comment s'en sortir? Révolution! Fait qu'on fait la révolution et voici la solution que Marx a pour cette vision du monde-là. Puis, pour terminer, le chapitre aussi nous partage Freud, si vous le connaissez, le psychanalyste. Le problème, c'est le refoulement de nos désirs. Alors, si on refoule nos désirs, voici le problème. La solution, bien, il nous dit, c'est la libération générale, mais sexuelle en particulier. C'est l'axe et la direction que Freud a pris. Maintenant, l'Évangile comme vision du monde complète, c'est comment la vision chrétienne répond-elle à ces visions du monde? Bien, c'est à ce que j'ai partagé tout à l'heure. La création, la chute et la rédemption. Ça, c'est la vision, dans le fond, l'Évangile, la façon qu'il amène tout ça. Maintenant que nous voyons comment l'Évangile se compare aux autres visions, comment elle influence les différents domaines de travail. Ici, Keller nous donne, dans le fond, nous amène sur cinq métiers ou cinq domaines selon dans la vision du monde que transmet l'Évangile a une influence et il nous donne les exemples sur les affaires, le journalisme, l'enseignement supérieur, les arts et la médecine. Et on va passer rapidement sur ces différents blocs et on commence par l'Évangile et les affaires. Être chrétien en affaires ne se limite pas à être honnête ou à éviter les comportements immoraux. Cela implique de réfléchir aux implications de l'Évangile pour l'ensemble de notre vie professionnelle. Puis dans le fond, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que dans chacun de ces métiers-là, ça ne se réserve pas simplement à ce métier. Il y a des concepts qu'on va voir dans certains métiers qui vous pouvez les appliquer dans tout votre, dans chacun de votre métier dans lequel vous travaillez. Le monde des affaires est souvent dominé par les idoles du pouvoir, de l'argent, de l'autonomie, de la réussite. Comme je vous ai dit, probablement que d'autres métiers partagent ces idoles-là. L'Évangile offre une alternative de faire affaire comme un service en recherchant le bien de toutes les parties prenantes, alors que ce soit les employés, les clients, les fournisseurs, les partenaires. Et certains dirigeants, chrétiens ou non, incarnent cet équilibre. On peut discerner si une entreprise est saine en examinant sa mission. L'Évangile permet de travailler avec intégrité, justice, humilité et générosité. Keller parle d'exemples de bons chefs d'entreprise qui, dans le fond, respectent leurs employés, les fournisseurs, créent la valeur commune, cherchent l'équité, la justice et créent des entreprises saines et humaines. Ce qui est intéressant là-dedans, quand on parle de mission, est-ce que vous êtes déjà renseigné sur la mission réelle de votre entreprise? Il y en a qui créent leur propre mission, fait que j'espère qu'elle est alignée avec l'Évangile. Mais ceux qui travaillent dans des organisations, est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Puis un petit partage personnel, un petit fait vécu. Quand je commençais à travailler dans le marché du travail, je venais d'avoir mon permis, je commençais à être un peu plus autonome, chercher un travail. Puis ceux qui ont commencé à travailler dans le siècle passé, c'était peut-être, en tout cas, c'est, je ne vais pas dire plus difficile, mais c'était différent d'aujourd'hui, en tout cas, des dernières années. Et j'avais eu une opportunité où j'avais un contact pour travailler pour l'installation des machines à sous dans les bars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, des fins des années 90, ce concept, l'Auto-Québec dit, bon, ben, on va rendre accro encore plus les gens au jeu du hasard, puis on va placer ça dans les bars. Et il y avait des installations, des machines poker, machines à sous, je ne sais pas comment on appelle ça. Puis j'avais, dans le fond, un contact et cette opportunité. Ça payait très bien, je me suis intéressé, mais comme vous voyez un peu la morale derrière et la mission en tant que telle et le fait d'aller rendre les gens accros ou dépendants du jeu, mais ça m'a fait reculer. Probablement aussi très influencé par mes parents. Je ne sais pas si à cet âge-là, j'avais la sagesse d'avoir cette perspective-là. Mais vous voyez, ça, c'est un exemple. Quand j'amène cet exemple-là, vous allez dire, oui, mais ça, c'est clair. Je comprends, mais peut-être que vous avez, vous, dans votre cas, des missions d'entreprise qui vont peut-être à l'encontre de l'Évangile ou à l'encontre de nos valeurs et nos convictions. Fait que c'est à ce moment-là que c'est intéressant et important de prendre cette perspective-là et ce recul-là. Il nous amène aussi dans l'Évangile et le journalisme. Il fait une analyse de ce qu'est le journalisme, la tentation courante des journalismes ou de l'actualité, de réduire les histoires en héros et méchants, sans aucune nuance. De toute façon, je crois que l'époque actuelle, c'est très binaire, c'est rouge ou bleu, séparatiste, fédéraliste, gauche-droite, il n'y a pas de nuance, il n'y a personne dans le milieu. Et bien souvent, le journalisme capitalise sur ces éléments-là et ne crée aucune nuance. L'Évangile nous montre que dans un monde brisé, on va souvent tomber dans un des deux extrêmes. Soit on idéalise les personnes et les systèmes, soit on rejette complètement. Keller note que le journalisme moderne est presque religieux, qu'il dit. Il possède ses propres dogmes, son orthodoxie, son clergé, sa liturgie, sa façon de fonctionner. L'Évangile apporte une vision équilibrée et il nous demande de rechercher la recherche courageuse de la vérité. Le refus du sensationnel ou du parti pris systématique, l'humilité, et la justice ou l'équité dans la façon de traiter l'information. Alors, ça, c'est pour ce qui est de le journalisme. Il parle également de l'enseignement supérieur. Ici, dans cette section, on comprend et on sait que l'enseignement supérieur aux États-Unis était quelque peu différent de l'enseignement ici au Québec ou au Canada. Par le fait que aux États-Unis, lorsqu'on parle supérieur, c'est l'université et même les études graduées, les gens peuvent s'endetter de 50, 100, 150 000 $, quelque chose que ici on n'a pas cet endettement-là si on rentre aux études. Alors, faut voir la lecture de Keller pour ce point-là. Avec cette perspective. Depuis les Lumières, la connaissance est souvent réduite à la vérification scientifique, alors ce qui relègue bien souvent les sciences humaines ou la philosophie à l'arrière-plan. Ça, c'est un constat qu'il mentionne. Et l'Évangile ici pose également une question. Comment la connaissance et la sagesse doivent-elles être transmises dans une communauté qui cherche la vérité? Comme j'ai mentionné, Keller ici fait l'emphase sur le fait que l'enseignement supérieur tend à renforcer les inégalités. Les étudiants issus de milieux favorisés ont plus de soutien et, selon lui, l'élite académique se reproduit. C'est sûr que pour avoir la capacité de commencer ta vie de jeune travailleur avec une dette de presque une hypothèque ici au Canada, mais ça limite le nombre de personnes ou le groupe de gens qui peuvent se permettre d'aller dans les études. On va avancer. L'Évangile et les arts. Alors, les arts révèlent souvent les valeurs profondes de notre culture. Le domaine artistique peut idolâtrer l'originalité, l'auto-expression, la provocation et même la célébrité. L'Évangile ici offre une vision plus profonde de l'art. La beauté reflète le Créateur, l'artiste participe à la créativité divine. L'art peut porter vérité, espérance, justice et même de l'humanité. L'Évangile libère l'artiste pour créer pour la gloire de Dieu, refléter la beauté, sa beauté, exprimer la vérité et également servir la société. Lorsque j'étais en train de lire la section ici, il parlait, dans le fond, Keller est venu donner des exemples de l'Évangile et la médecine. Et Keller explique que pour les médecins, il y a un danger de réduire les patients à des cas. Là, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le cas? Puis de toute façon, dans les nouvelles, c'est un peu ça qu'on entend avec la loi, les médecins qui disent « ça n'a pas de bon sens ». Et j'ai essayé d'aller chercher plus d'informations, puis j'ai dit « mais pourquoi pas parler à un médecin? » Et là, Suzy, si tu veux peut-être venir avec moi en avant, quand je lui ai écrit, Suzy dit « oui, mais je ne suis plus médecin, mais médecin un jour, médecin toujours, je crois ». Elle est à la retraite, mais ça fait pas si longtemps que tu n'es plus médecin. Alors, tant que moi ici, j'essaie de vous résumer ce que Keller dit des médecins aux États-Unis, bien, on va entendre d'une vraie médecin. Et on avait partagé… Jeune médecin. J'avais passé les questions, et comme j'ai mentionné, si tu peux élaborer comme… Certainement. Alors, ça, c'est pour toi. Okay. Première question, et on va y aller en mode un peu entrevue dans ce cas-ci. Lorsque tu repenses à ton parcours médical, quelles sont les pressions ou tentations les plus subtiles que tu as vues dans ton milieu, celles qui peuvent entraîner un médecin à se perdre dans la profession?
En fait, il y a plusieurs pièges parce que le parcours normal fait qu'on sait que quand on veut aller en médecine, c'est très contingenté. Okay? Fait que pour la majorité des gens, c'est un rêve qu'ils ont depuis qu'ils sont jeunes puis qu'ils vont. Fait qu'il peut avoir, quand tu réussis à être accepté, cette genre d'accomplissement en disant c'est par mes forces, c'est parce que j'ai été bonne, parce que j'ai persévéré. Fait, il y a un orgueil qui est sous-jacent à ça aussi. Puis, la médecine donne une certaine crédibilité. Fait que c'est facile de se péter les bretelles parce que si tu vas à la caisse, tu veux un prêt, tu dis je suis médecin, écoute, le tapis rouge se déroule devant toi. Fait que c'est comme ça dans plein de domaines. Fait que c'est ça, c'est facile d'être orgueilleux, d'avoir l'orgueil de vie ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est un danger qui est toujours là. Puis je dirais que ce qui m'a, entre autres, préservé de ça, c'est que moi, j'ai jamais pensé m'en aller en médecine. Jusqu'à 2 semaines avant de faire la demande à l'université, je savais pas en tout en quoi m'en aller. Fait que, tu sais, pour moi, c'est clair que si je suis en médecine, c'est que quelqu'un voulait que je sois là. Pourtant, je n'étais pas chrétienne à ce moment-là. J'ai rencontré Christ dans ma 3e année de médecine, mais ça a tout changé. Ça, c'est la première question.
Intéressant. Dans un système médical de plus en plus spécialisé et technique, comment faire pour continuer à voir et traiter les patients comme des personnes entières, et là, avec toutes les dimensions, que ce soit émotionnelles, psychologiques et parfois même spirituelles, comment tu as pu conjuguer ces dimensions-là?
Bien, en fait, je pense que ça dépend beaucoup de ta personnalité, mais là encore, c'est facile. Tu es au sans rendez-vous, puis tu peux voir la raison pour laquelle la personne vient. Elle vient parce qu'elle a un bouton sur le nez, tu vois. Ça peut facilement s'arrêter là, tu vois. Sauf que si tu es moindrement à l'écoute, puis qu'elle met la main sur la poignée, puis qu'elle pousse un gros soupir, puis qu'elle dit « Ah, oh, docteur, c'est tellement dur », puis qu'elle se met à pleurer, bien, j'ai deux possibilités. Je m'arrête à son nez, hein?
Ouais.
Ou bien non, bien, peut-être qu'on pourrait en parler, est-ce que… Puis là, tu peux ouvrir la porte. Fait qu'il y en a un qui est une approche purement… Puis l'autre qui est plus humaine, ou est-ce que je me dis « Oups, palaille, il y a quelque chose qui est plus important que son bouton sur le nez, tu vois? » Fait que ça, c'est un exemple…
Puis, dans le fond, quels sont les gestes ou les attitudes qui t'aident à éviter de réduire ça à un cas, que ça, un peu comme tu dis, là?
c'est parce que tout être humain est un… Je pense que cette notion que tout être humain est important, qu'il y a une valeur, fait que ça se reflète, puis dans ta façon de considérer la personne, bien, automatiquement, ça t'influence. Je ne sais pas, je réponds-tu à ça?
Oui, non, ça va.
C'est correct. Oui, c'est ça.
On passait à la dernière question. Y a-t-il un moment ou une interaction d'un pensée que tu as particulièrement marqué? Puis là, probablement que tu dis, tu vas chercher dans ta liste le top 3 ou…
Bien, en fait, oui, puis je vais raconter l'histoire. C'est une maman puis son fils qui sont sur le bien-être. Puis ils venaient tout le temps au sans rendez-vous avec vraiment des problèmes physiques. Puis je pense que personne ne les écoutait. Puis il avait la raison parce que elle avait un physique pas agréable. Puis son fils, qui avait quand même peut-être 30 quelques années, il parlait comme ça parce qu'il avait un syndrome qui… En tout cas, c'était vraiment… Puis il n'y avait pas de médecin de famille. Personne ne voulait être leur médecin de famille. Puis personne ne les écoutait parce que dans leur comportement ou leur façon d'être… Tu sais, quand tu vois Jésus dans les évangiles, où est-ce que… Il y a des gens qui sont des parias ou qui ne sont pas, mais c'est un peu ce qu'ils représentaient. Mm. Puis, écoute, je ne sais pas pourquoi. Ben oui, peut-être parce que Jésus est en moi, mais finalement, ce sont devenus mes patients. Okay? Puis, il y avait vraiment des problèmes physiques que j'ai que Dieu a utilisé pour que je résolve le problème. Puis pour me rendre compte que finalement, il avait la même foi que moi. Je ne pense pas qu'il était des chrétiens baptistes, mais pour me rendre compte un an plus tard qu'il priait à tous les jours, que Jésus faisait partie de leur vie, puis je me disais, quelle belle histoire, comment Dieu m'a utilisé, puis à cause de l'amour de Jésus qui est là, puis qui transpose finalement, puis en tout cas, c'est le fun. C'est comme, tu sais, dans les choses, qui sait si chez vous, vous ne rencontrez pas des anges, puis que vous ne donnerez pas l'hospitalité, mais tu sais, Dieu m'a utilisé pour aider des gens qui aimaient Jésus, puis qui avaient besoin d'aide, puis il n'y a pas personne à la clinique qui voulait, tu le sais, tu le sens, tu vois le regard, puis moi, je pense que, gloire à Dieu, tu sais, je pense que c'est à cause de Jésus que je l'ai fait, là. Fait que voilà.
Excellent, mais merci beaucoup. Merci pour le témoignage, oui. Dans le fond, on voit que lorsqu'on est chrétien, ça change la perspective avec laquelle on fait notre métier. Puis dans ce cas-ci, Suzy nous a bien partagé, ne serait-ce que le dernier exemple que tu as amené. Oui, n'importe qui peut le faire, mais un chrétien, le fait d'aller vers l'autre, de cet élément de compassion, t'a probablement poussé davantage que ton collègue, qui lui aussi probablement est rempli de compassion, pour être en mesure de faire ce métier-là. Je crois qu'il faut un certain élément. Alors, si je voulais juste prendre un peu de temps, et merci Suzy de partager ce témoignage-là. Comment mettre tout ça en application? Comment on prend notre travail, on prend notre foi, et comment qu'à un moment donné, on fait un tout, et comment on met ça en application? Puis, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai dit, bon, mais comment moi je l'ai appliqué? Comment moi je l'ai fait? Puis, on va commencer par peut-être juste voir comment une vision chrétienne du travail peut influencer ta vision du travail comme employé. On va commencer par, normalement, tout le monde travaille. Si vous travaillez, vous êtes un employé. Et je crois que elle influence notre travail de 5 manières essentielles. Puis dans le fond, elle peut et elle va transformer ta motivation. Je crois que une vision chrétienne du travail transforme la motivation. L'employé chrétien ne travaille pas seulement pour plaire à son boss ou à son supérieur et éviter des problèmes ou obtenir une promotion. Il travaille pour Dieu. Et ça a été mentionné tout au long de mes amis anciens qui sont venus parler, partager des chapitres. C'est un élément qui ressort et qui est présent chaque fois qu'on parle de ce sujet-là spécifiquement. On travaille pour Dieu avec un cœur intègre, même dans les tâches les plus simples. En fond, je crois que cela nous donne une motivation stable, une certaine constance dans notre effort, dans notre travail, et aussi une certaine résilience face aux défis. L'intégrité, c'est de faire la bonne chose quand personne ne regarde. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. L'intégrité, de faire la bonne chose quand personne ne regarde, c'est faire le bien, même quand tu n'es pas obligé. Même quand, c'est ça, il n'y a personne qui est présent pour observer le fait que tu as fait cette action-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la théorie du panier d'épicerie. Non? Dans le fond, c'est pas scientifique, même si j'aurais aimé ça qu'il y ait une thèse de doctorat qui s'est sortie de là, mais la thèse du panier d'épicerie, est-ce que vous rapportez votre panier d'épicerie lorsque vous avez terminé? Lorsque vous avez mis vos sacs dans votre voiture, est-ce que vous allez rapporter votre panier d'épicerie? Ça, c'est quelque chose qui est facile à faire, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Il n'y avait pas vraiment il n'y a pas une police des paniers d'épicerie qui se promène dans les stationnements. Personne ne va t'arrêter personne ne va te punir si tu le laisses traîner. Donc, il semblerait, et c'est sûr que je garder un petit élément, que le fait que ça ne soit peut-être pas scientifique, mais il semblerait que la façon dont tu te comportes avec ton panier d'épicerie est le niveau de ton intégrité. Ça vaut ce que ça vaut. Je crois également que la vision chrétienne du travail peut influencer et elle change ton rapport au succès et à l'échec. Vision du monde actuel, ta valeur dépend de ta performance, de tes résultats, de tes évaluations, du regard des autres. Mais la vision chrétienne, c'est ta valeur est déjà assurée en Christ. Cela libère l'employé de deux pièges, je crois, la peur de l'échec et son équilibre, son contraire, si on veut, l'orgueil du succès. Il faut faire attention à ces deux pièges-là. Les conséquences concrètes, c'est que je crois qu'on peut apprendre sans être humilié, on peut réussir sans être orgueilleux, on peut être corrigé ou repris sans s'effondrer, et on peut également prendre certains risques avec un certain contrôle. Alors, ton identité ne dépend pas de ton travail, elle dépend de Dieu. Je crois également que ça façonne ton caractère professionnel. Alors, une vision chrétienne du travail forme un employé, comme j'ai mentionné, fiable. Tu fais ce que tu dis, honnête, loyal, humble, respectueux, calme, encourageant. Tu deviens un employé qui fait du bien autour de toi. Question que j'ai pour vous, ou que vous pouvez vous poser, j'attends pas de réponse à voix haute. Est-ce que tu es reconnu comme quelqu'un avec qui il est agréable de travailler? Est-ce que les gens t'apprécient au travail pour ce que tu fais, mais également pour qui tu es? Puis c'est peut-être une façon, quelque chose qu'on peut se poser comme question, on est-tu quelqu'un avec qui on est agréable à travailler? Je crois également qu'elle rend sensible à la manière dont ton métier peut te déformer. Chaque travail porte ses propres idoles et on vient de les voir. Dans le fond, on a parlé de performance, contrôle, argent, reconnaissance, on vient de voir la liste. Une vision chrétienne te permet de démasquer ces idoles avant qu'elles t'absorbent. L'employé chrétien se demande quelle pression de l'organisation essaie de me façonner, qu'est-ce que mon métier valorise trop, quels sont les compromis que je dois refuser, dans le fond, qui sont contre mes convictions. Quelle partie de l'Évangile dois-je appliquer ici également? Elle donne un sens profond, même aux tâches les plus ordinaires. Dans une vision du monde, la valeur de ton travail dépend de son prestige, du titre. Dans la vision chrétienne, toute tâche faite avec intégrité a de la valeur aux yeux de Dieu. Et là, peu importe ce que vous faites, que tu serves des clients, que tu sois une entrée de données, que tu règles des conflits, que tu sois celui qui fait le ménage, qui organise, tu conduis un camion, peu importe ton travail. Tu sanctifies ton travail en le faisant pour Dieu. Il n'existe pas de métier banal dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas façonnés par les idoles de notre travail, mais par l'histoire que Dieu et le travail qu'il fait sur notre vie. Celle-là, je crois, nous donne une paix, une liberté et une joie que le monde ne peut pas offrir. Maintenant, pour ceux qui sont gestionnaires ou qui ont une certaine responsabilité, comment la vision chrétienne du travail devrait influencer ta vision du travail comme un patron? Comme un gestionnaire. Alors ici, s'il y en a qui sont dans ce rôle-là, dans cette position-là, une vision chrétienne du monde change radicalement également la manière d'exercer l'autorité. Elle transforme non seulement ce que tu fais, mais ce que tu es comme leader. Et selon moi, voici les cinq transformations majeures dans ce sens-là. Le gestionnaire chrétien voit son autorité comme un service, pas comme un privilège. Dans le monde, on dirige pour être puissant, pour être reconnu ou même indispensable. Dans un monde avec une vision chrétienne du travail, on dirige pour faire grandir les autres. Ça change certainement ton leadership. Tu ne vas pas utiliser ton équipe pour ton avancement personnel. Tu cherches le bien avant ton image. Tu considères chaque personne comme étant image de Dieu et tu développes ceux qui ont moins d'expérience au lieu de les écraser ou simplement de les ignorer. Le gestionnaire chrétien n'accumule pas le pouvoir. Je crois que le gestionnaire chrétien, il va plutôt le partager. Il n'y aura pas d'inquiétude dans ce sens-là. Le gestionnaire chrétien crée une culture qui reflète le caractère de Dieu. Ton équipe respire ce que tu vis. Si tu es stressé, si le gestionnaire est stressé, mais bien souvent, on va avoir une équipe anxieuse, une équipe qui est stressée. Si tu es juste, mais là, on va avoir probablement une équipe qui est plus équitable. Si tu es humble, bien, ils vont avoir un modèle, puis ça se peut qu'ils apprennent à être humbles eux autres aussi. Une vision chrétienne du travail favorise un gestionnaire à grandir en vérité, en justice, en compassion, en transparence, en pardon, en grâce. Je crois que c'est multifacette de la façon dont un gestionnaire chrétien peut grandir avec cette vision chrétienne du travail. Troisième façon, le gestionnaire chrétien est libéré de l'ego, de la peur. Lorsqu'on est en entreprise, qu'on soit employé ou même, des fois même gestionnaire, ton identité, il ne faut pas que ton identité soit dans ton titre. Et là, des fois, on a des titres assez exceptionnels pour les égos de certains gestionnaires, avec des superlatifs, des directeurs généraux, général, supérieur, plus de mots, plus de titres, ça gonfle leur ego. Alors, ton identité, il ne faut pas qu'elle soit dans ton titre, dans ta performance, dans les résultats de ton équipe, dans la reconnaissance de tes supérieurs. Il faut avant tout qu'elle soit en Christ. Je pense que cela change ta posture, car on va peut-être plus facilement admettre nos erreurs. On peut écouter nos critiques sans toujours se défendre et amener une raison pourquoi on a fait ces erreurs-là. On peut donner le crédit aux autres. Tu ne gères plus avec anxiété ou domination dans ton équipe. Tu ne deviens pas insupportable sur pression, en tout cas, où on essaye. Tu seras donc en mesure de mieux, je crois, diriger avec humilité et confiance. Le quatrième point, le gestionnaire chrétien protège et élève les autres. Dans une vision du monde actuel, beaucoup de gestionnaires veulent protéger leur réputation, vont éviter d'avoir les conversations difficiles, comme j'ai dit tantôt, vont peut-être sacrifier les plus faibles, vont être trop exigeants, vont presser le citron, vont presser leurs équipes. Mais je crois qu'une vision chrétienne pousse dans une direction opposée. Dans un monde avec une vision chrétienne du travail, un gestionnaire dit la vérité avec compassion, avec amour, confronte le mal, assume ses responsabilités, défend son équipe devant les pressions. Je crois également qu'il va refuser les compromis éthiques ou dans les convictions et va donner des limites, se donner des limites pour éviter le burn-out de ses équipes ou le surmenagement. Et le dernier point ici, le gestionnaire chrétien mesure la réussite autrement, je crois. Souvent, le monde va mesurer le leadership. Puis c'est un élément qui revient souvent par la croissance, les résultats, l'efficacité, la visibilité, peut-être même parfois l'innovation. Mais la vision chrétienne nuance avec d'autres indicateurs, avec d'autres KPI pour ceux qui sont en organisation d'entreprise. Je crois que la vision chrétienne nuance avec la justice, la fidélité, la transformation des personnes, la qualité des relations, l'harmonie et le calme dans les équipes, l'intégrité également face aux pressions. Je vais avancer très rapidement. J'avais un autre bloc à partager, mais je vais aller peut-être avec un partage un peu personnel. J'ai été gestionnaire et responsable de plusieurs équipes pendant un certain temps. Et un jour, j'ai été face à un gros projet qu'on appelle un projet d'optimisation. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sonne dans vos oreilles lorsque vous entendez un projet d'optimisation. Ça dépend des organisations, mais dans mon cas, bon, je voyais clairement que ça voulait dire réduction d'effectifs, perte d'emploi à terme. Mais évidemment, ce n'est pas montré, ce n'est pas partagé. C'est pas quelque chose qui est mis de l'avant dès le départ. Mais je savais que derrière ce projet, il allait y avoir des personnes que je connaissais, des familles, des histoires, et j'entrevoyais déjà qu'est-ce qui allait arriver à la fin de cet exercice d'optimisation. J'appréhendais énormément cette période. Je commençais à mal dormir, j'étais nerveux, j'étais anxieux. Puis, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui aime annoncer à un employé qui va perdre son emploi. Au moment de la tempête, les gens n'étaient pas évidemment contents de cette décision, mais tout au long des rencontres et des relations, je suis convaincu que les employés, mes employés, savaient que je ne les trahissais pas, que je ne jouais pas dans un double jeu, et ils savaient que je faisais de mon mieux dans un cadre, évidemment, que je ne contrôlais pas. Et cette dynamique que j'avais avec les employés, même en annonçant que leur poste changeait, que le département fermait, que leurs tâches allaient être différentes, pour certains, oui, qui ont perdu leur emploi, ce que j'ai senti par le fait qu'on a quand même gardé, pour certains, on a quand même gardé contact jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça m'a frappé que pendant des années, sans même me rendre compte, je crois que j'avais semé ma relation, j'avais bâti cette relation. Alors, j'avais essayé d'être un gestionnaire intègre, juste, équitable, puis je crois qu'à terme de cet exercice, peut-être pas tous, mais certains me reconnaissaient comme quelqu'un qui incarnait ces valeurs-là. Alors, avec le recul, je peux dire que c'est Dieu qui m'avait façonné mon caractère tout au long de ces fils, tout au long des années que j'étais responsable de ces équipes-là, de ces gens-là. Et souvent, sans que je réalise qu'il est en train de me préparer à ce genre de saison. Pour ceux qui connaissent mon histoire, ce qui est l'ironie de tout ça, c'est quelques années plus tard, mais le rôle s'inverse. Et là, au lieu que moi, je sois à la table du gestionnaire qui fait de l'optimisation, bien, c'est moi qui s'est fait optimiser. C'est moi qui ai perdu mon emploi dans le même exercice qui a duré des années et des années. Cette fois-ci, c'est plus moi qui annonce la coupure, mais c'est moi qui ai coupé. C'est moi qui est de l'autre côté du bureau, c'est moi qui perds mon emploi. Le choc, j'avais toujours travaillé pour la même compagnie depuis plusieurs années, pour ne pas dire décennies. Pour moi, c'était pas juste un travail, c'était devenu une partie de mon identité. Et quand tout est tombé, j'ai douté de moi, douté de ma valeur, puis à un certain niveau aussi douté du plan que Dieu avait pour moi. Lorsqu'on voit déjà notre voie tracée dans un certain sens, et là, il y a les embûches, mais tu te poses cette question-là. Avec tout ça, il y a des questions, dans le fond, qui ont traversé mon esprit. Après tout l'effort que j'ai fait pour être intègre, on se rappelle du fait que j'ai semé et j'ai vécu comme employé et gestionnaire d'une certaine forme. À quoi ça sert vraiment si, à bout de tout ça, bien, toi aussi, tu passes dans la moulinette? Est-ce que le gestionnaire avec des principes chrétiens, c'est juste quelqu'un qui se fait manger la laine sur le dos? À certains moments, des fois, je me pose cette question. Puis j'ai été profondément ébranlé, parce que lorsqu'on a ces tant de valeurs que je vous ai parlé tout au long de ce matin, pour le monde ou pour certaines personnes dans le monde, mais c'est des gens qui ont moins, si tu ne te vantes pas de tes performances, si tu n'écrases pas l'autre, si tu ne t'élèves pas, mais c'est parce que tu n'es pas un leader fort, parce que l'organisation, la société, des fois, probablement, c'est ça qu'ils recherchent. Alors après, étant profondément ébranlé, je me suis assis et réfléchi à tout ce qui se passait, puis me poser certaines questions. Où est-ce que je mets vraiment mon identité? Est-ce que je mets mon identité dans mon poste, dans ma stabilité financière, dans ce que les autres pensent de moi, ou le fait que j'appartiens à Dieu, peu importe ce qui arrive dans ma carrière. Puis, Dieu est bon, parce que pendant cette période, J'ai réussi à avoir des conversations avec des personnes qui sont chères, des amis, des conversations précieuses. Puis également par la prière, la lecture de la parole, ça m'a aidé à avoir un peu plus clair dans cette nuage que je vivais. Et petit à petit, la paix et la sérénité est revenue dans mon cœur. J'ai découvert, et ça, on le voit par la suite, on le voit plus tard, mais j'ai découvert, dans le fond, effectivement, que Dieu n'avait pas perdu contrôle, même si, au moment présent, je voyais pas clair. Mais je suis maintenant convaincu qu'effectivement, Dieu avait un plan pour ma vie. Et, dans le fond, le futur ne s'est pas écrit comme je l'aurais imaginé, pas quand j'ai perdu mon emploi, pas quelques mois par après, mais les dernières années, ça a vraiment fait sortir de ma zone de confort, évidemment, mais apprendre à nouveau à dépendre davantage de Dieu. Alors, j'ai pu, dans cette période-là, il y avait déjà des choses qui avaient été placées, mais je suis retourné aux études, je me suis formé. Évidemment, j'avais perdu mon emploi, j'ai cherché un nouvel emploi, j'ai eu ce nouvel emploi. Ce nouvel emploi me permettait d'avoir plus de disponibilité pour étudier à ce moment-là, mais maintenant pour donner plus de temps à l'Église. Et je peux vous assurer que si j'avais maintenu le rythme que j'avais dans mon autre emploi, mais j'aurais pas pu conjuguer tout ce que je fais présentement. Enfin, le point ici, c'est plutôt de dire les choses arrivent parce que Dieu est au contrôle. Puis bien souvent, lorsque on est en plein milieu de la tempête, on voit pas clairement, on voit pas ce qui est devant nous. Des fois, lorsqu'on est face à un problème, on est dans la forêt, on voit juste l'arbre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept-là. On voit juste l'arbre qui est devant nous, puis on ne voit pas le big picture ou la forêt en soi. Avec le recul, je vois un fil conducteur. Je vois que Dieu prend soin de moi, de mon travail, en me faisant grandir et à me préparer pour ce qui m'attendait. Quand j'étais gestionnaire, Dieu façonnait mon caractère pour que je sois un leader intègre dans les décisions difficiles. Quand j'ai perdu mon poste, Dieu a travaillé mon identité, ma confiance et en fait que je dépende de lui et de sa providence. Quelques mois, quelques années plus tard, mais j'étais ici en train de donner un cours sur la providence de Dieu. Alors, c'est Dieu a ses plans et bien souvent, on le voit pas. Pour conclure, il y a cinq minutes. Moi, juste un instant. Je vais conclure avec une petite histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire des deux artisans, des deux gars de construction, des deux bricoleurs. Un jour, un homme se promène près d'un gros chantier de construction. Il y a du bruit, ça cogne, ça coupe, il y a de la poussière partout, il y a des outils partout, des camions qui vont dans tous les sens. Il s'approche d'un premier bricoleur, un peu brûlé, fatigué, visage sérieux. Puis là, il va puis il demande, « Tu fais quoi au juste? » Bricoleur répond avec un ton découragé, « Ben, je pose des briques, je fais un mur, je fais ça tous les jours, je commence le matin, je termine le soir, puis demain, comme on dit en latin, « rinse and repeat », on répète tout ça jour après jour, après jour, après jour. L'homme continue de marcher tout au long du chantier, puis un peu plus loin, il voit un autre bricoleur. Là, il va face à ce bricoleur, puis il dit exactement, il fallait exactement la même question. Mais lui, il n'avait pas le même visage. Il était calme, concentré, puis il avait même une petite étincelle dans ses yeux. Tu vois, il y avait quelque chose, ce bricoleur-là, il était différent des autres. Puis là, il demande, « Toi, tu fais quoi au juste? » Puis lui, il dit, le bricoleur s'arrête, lève la tête, sourit, répond, « Moi, je suis en train de construire un palais royal. » Les deux font exactement le même geste, poser une brique, la casser, mettre le mortier, font exactement le même travail, mais ce n'est pas du tout la même chose pour eux, ils ne vivent pas de la même façon. Le premier, pour le premier, ce sont que des briques, un mur et une journée qui passe. Pour le second, chaque brique fait partie de quelque chose de plus grand, qui, lui, est un projet royal, un palais royal. Et il dit qu'il fait, dans le fond, que c'est un privilège pour lui d'en faire partie. Dans ce chapitre, nous pose exactement cette même question. Quand tu penses à ton travail, est-ce que tu vois juste un mur ou un palais? Est-ce que tu es dans ta petite histoire ou tu es dans l'histoire de Dieu? On peut voir que le travail, comme une suite de tâches à accomplir, des courriels envoyés, des réunions, est-ce que c'est ça qui est, dans le fond, votre perspective du travail qui est « je pose simplement des briques ». L'Évangile nous raconte une autre histoire. Il nous dit que Dieu a créé le monde bon, où le travail faisait partie de son projet. Le péché a abîmé le monde et notre travail emporte les cicatrices encore. Par la fatigue, l'injustice, mais Christ, Dieu, a commencé à déjà renouveler toutes choses. Et notre travail peut devenir un lieu où son règne se manifeste, par la justice, la beauté, le service, l'amour du prochain. Et un jour, Dieu restaurera pleinement toutes choses. Dans ce grand récit, ton travail n'est plus juste de poser ou poseur de briques. Tu participes à ta mesure à ce que Dieu construit. Tu contribues, même de manière imparfaite et parfois même très ordinaire, à quelque chose qui appartient à Dieu, qui appartient au roi. J'avais commencé avec une question. Dans quelle histoire travaillez-vous, la vôtre ou celle de Dieu? J'avais posé cette question. Et je vais vous laisser également avec la question « Où votre histoire s'insère-t-elle dans la grande histoire de Dieu? » Je vais vous laisser avec un verset. Et dans mon chapitre, il n'y avait pas beaucoup de versets bibliques. Vous voyez que c'était plutôt des expériences et de la mise en pratique de ce qu'on a vu. Mais je vais vous laisser également avec un verset dans Colossiens 3, 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » J'avais pensé peut-être par la suite avoir un petit moment où on échange avec certaines questions. Dans les feuilles que vous avez à l'entrée, il y a toute une série de questions que vous pouvez prendre pour réfléchir. Mais il y en a, je pense, 8 ou 9, là, mais que vous pouvez prendre ces questions pour réfléchir. Il était 59. Merci de votre attention. Gardez votre cœur comme je vous mentionne, soyez fidèles. Ayez cette perspective de Dieu dans votre travail. Merci.